Le chemin des mots. Arrête-toi. Attends. Écoute. Souviens-toi. Le mot chiffonné sur du papier glacé. Le verbe poétique caché dans la phrase. Donne vie aux images. Grave son nom sur un tronc d'arbre. Écris le tumulte des eaux. Imagine les elfes s'abritant sur un rayon de lune. Embrasse le texte dans son renouveau. Relis-le, chante-le, offre-le, une nouvelle en voyage sur le chemin des mots.
Pour cette première entrée en matière, Sylvie Bauget nous propose de retenir deux nouveautés de 1975. Le premier ordinateur à usage familial est disponible aux États-Unis. L'ONU proclame 1975 Année internationale de la femme. 1975, nous avions 20 ans, ou presque. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. L'informatique envahit toutes les maisons et son apprivoisement reste un obstacle pour la plupart d'entre nous. Quant à la condition de la femme, les luttes engagées se poursuivent avec force et conviction. Il nous fallait choisir l'événement qui nous parle le plus. Aujourd'hui, nous vous proposons une première approche de ces thèmes avec le choix de quelques nouvelles ponctuées de chants venus d'Afrique, le monde bouge aussi là-bas, ainsi que d'une ponctuation de Bob Dylan.
Conditionnel passé. Tu aurais pu en être. Cheveux lâchés comme les frangines, même veste en mouton retourné, même patte d'ef battant les bottes. Sous les talons, les pavés parisiens luisants de pluie. Tu aurais pu tenir la pancarte. 1975, année de la femme. 1976, année du chien. Le plus fidèle ami de l'homme. 1977, année du cheval, la plus belle conquête de l'homme. Tu aurais pu, avec tes sœurs du MLF, refuser de te laisser enfermer dans une année gadget, dans un programme, un cadre, une date. Tu aurais pu, ce samedi 8 mars 1975, chalouper avec la foule, bras dessus, bras dessous, d'un bord de trottoir à l'autre, en chantant à tue-tête. Trois pas en avant, trois pas en arrière, trois pas sur le côté, trois pas de l'autre côté. Les hommes savent plus quoi faire pour nous remettre au pas. Voilà qu'ils nous libèrent, il ne manquait plus que ça. Ils causent de nous dans les forums, ils nous préparent des petites réformes. Trois pas en avant. Tu aurais pu, au milieu des milliers de manifestantes entre Bastille et la place d'Italie, scander avec elles. Ni l'ONU, ni Giroud ne parleront pour nous. Le chauve chuintant de l'Élysée avait nommé quelques mois plus tôt une secrétaire d'État à la condition féminine, chargée de mettre en œuvre l'année de la femme, avec majuscule, initiée par le machin, l'ONU. Françoise Giroud, port altier, broching laqué sous contrôle, sourire immuable sous contrôle, élocution éminemment distinguée, syntaxe sans faille, tailleur Hermès avec jupe au genou. Elle avait interdit le port du pantalon aux femmes qui travaillaient sous sa direction, au journal L'Express. À l'âge de 24 ans, qu'attendre d'une femme dont chaque intonation, chaque haussement de sourcil disait l'appartenance à une autre sphère? Non, tu n'avais rien attendu de cette année de la femme, un bidule dans l'air du temps. La femme? Quelle femme? Une année, soit 12 mois pour s'attaquer à des siècles d'inégalités? Quelle blague ! Reste rien à espérer non plus des innovations médiatisées qu'un président de la République qui, s'il avait certes contribué à avancer l'âge de la majorité, avait prétendu bousculer les codes jusqu'alors en usage à l'Élysée en conviant des éboueurs à venir petit déjeuner au palais et en s'invitant à la table des Français normaux. Et que vive l'égalité homme-femme ! Que vive l'égalité sociale ! En 1975, pour un temps complet dans le secteur privé et celui des entreprises publiques, les hommes touchaient un salaire supérieur, en moyenne, de 47,6% à celui des femmes. 5 ans plus tard, l'écart salarial avait reculé de 7% et des poussières. Aurait-on dû imputer cette formidable avancée à la réussite de l'année de la femme ? Non. Si motif de réjouissance il y avait eu en 1975, cela avait été dès le mois de janvier, donc sans aucun lien avec le thème retenu par l'ONU, le vote à l'Assemblée nationale de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil. En avril, la chute de Saïgon mettait un terme à la guerre du Vietnam. En novembre de cette même année, la mort de Franco sonnait la fin d'une dictature de 40 ans. Ces événements-là, oui, sans doute, étaient porteurs d'espoir. Parmi les thèmes de l'ONU pour les années à suivre, lequel illustre a posteriori le plus grand écart entre l'objectif proclamé et sa réalisation ? Celui de 1985, année des Nations Unies, pour une auto-célébration ? Celui de 1986, année internationale de la paix ? Ou encore celui de 1987, année internationale du logement des sans-abri ? Faut-il poursuivre l'énumération ? Vraiment ? Ce 8 mars 1975, suivi loin de Paris, depuis un village à l'est de la France, tu l'avais perçu comme la remise à l'heure de certaines pendules et un euphorisant moment d'exultation partagée. Tu aurais aimé en être, battre le pavé, brailler chants et slogans, avant de se replier avec les copines dans le brouhaha enfumé de leur QG, rue Monge. On aurait laissé retomber la tension devant un petit blanc. Le jukebox aurait diffusé le tube de Dylan, sorti 10 ans plus tôt. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
J'ai 20 ans. Immortel. 20 ans en 1975. Ça fait un demi-siècle que j'ai 20 ans. Ce souvenir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est l'année des premières ventes des ordinateurs domestiques. J'ai beau fouiller dans ma mémoire, ce ne fut pas pour moi un événement marquant. Si ce n'est que, dès la rentrée 1974-75 à la fac, avait été créée une licence administration économique et sociale qui mélangeait des enseignements aussi différents que la sociologie et la comptabilité, le droit public et la littérature, par exemple. Un incroyable fourre-tout où s'ajoutait l'informatique. Pour être complet, les potes et moi, on y ajoutait également les parties de baby, foot, troquet du coin et l'étude assidue des magazines de pop musique. L'informatique, rien que le mot nous bluffait. Nous assistions à ce cours, curieux et perplexes, en se demandant quel piège nous était tendu. Que nous voulait-il ce prof et son tableau noir et son jargon de bits, octets, microprocesseurs, cartes graphiques, etc. La salle était équipée de ces instruments appelés micro-ordinateurs, dits domestiques. Nous tournions autour de ces objets sans charme, puis, avec la bénédiction de notre enseignant, Nous avions le courage d'appuyer sur le bouton « on », en anglais, of course, non sans une certaine crainte que la machine nous explose à la gueule ou déclenche un processus nucléaire. J'exagère à peine. L'écran s'allumait parfois et affichait d'austères icônes inconnues et des sombres listes de chiffres et de lettres rébarbatives. Et maintenant, que faire de tout cela? Le prof tenait à cet exemple. Si vous voulez prendre des cours à Harvard, ce sera bientôt possible, grâce aux médias Internet de votre poste de micro-ordinateur, sans vous déplacer. Internet, encore un terme si peu connu. Plus terre à terre, nous n'avions aucune intention de suivre l'enseignement de cette université américaine. Le prof avait beau répéter que ce n'était qu'un exemple. Nous restions sur notre position et par conséquent, nous n'avions aucun besoin de cet étrange outil. En 1975, très rares étaient les foyers possédant une piscine. C'était le cas d'un de mes cousins, ou plutôt de ses parents. Au beau jour, il recevait de nombreuses visites, les uns et les autres munis de maillots et serviettes. Sa maison devenue un lieu de rendez-vous. Mais quel rapport, me direz-vous, entre piscine et micro-ordinateur? Avoir construit une piscine chez soi représentait un signe évident de grande aisance financière, par des gens soupçonnés parfois d'être des parvenus. L'achat d'un ordinateur domestique reflétait également cette aisance assortie d'une caution intellectuelle plus respectée. 1975, dans l'effervescence pop du moment, nous écoutions sans relâche sur nos électrophones de brillants groupes. Pink Floyd et Bowie étaient déjà confirmés. Bob Marley s'imposait, Supertramp et bien d'autres s'affirmaient. Nous squattions les bacs des disquaires, économisions afin d'acheter ces vinyles, satisfaits de les découvrir et de les faire découvrir à nos copains. Nous étions loin d'imaginer que des YouTube et autres plateformes numériques nous permettraient d'écouter à satiété et à moindre frais la terre entière, à travers ces engins devenus indispensables et familièrement appelés ordi. Ordi, mon très cher ordi.
Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing.
Le jardin. Rien d'urgent, j'attends. Une journée de fin d'été aux douceurs fines. Déjà les couleurs fauves à l'ombre du palmier. Sur le toit d'une des maisons d'à côté, le rassemblement de corneilles, une trentaine d'oiseaux noirs me plonge dans un film de Hitchcock. Pas un mouvement durant quelques minutes, une scène jamais vécue les années précédentes. Et puis l'envol, la quête probable d'un ailleurs. Ensuite, les nuances d'une sérénité juste zébrée par le vol de deux pigeons. Le jardin face au calme et à la paix retrouvée. Une mésange furtive grignote une figue bien gonflée, sûrement appétissante. Un petit chat noir, visiteur complice en quête d'un coin ensoleillé. Les vers récupérés, les gouttes de rosée éclaboussées de lumière, le souffle d'air, le silence à peine perturbé par un périphérique lointain, une contemplation du jardin pour un temps très éloigné du vain bourdonnement du monde. Et un bruit bizarre, un son que je ne reconnais pas, l'air brassé, mais par quoi? Du territoire contigu, un territoire bien clôturé, au-dessus des haies apparaît un drôle d'objet, un insecte métallique lustré par les rayons du soleil. Je savais que mon voisin, M. Alexis, était un homme connecté. Il avait apprivoisé les dernières technologies de notre temps. Sans le sésame électronique, il n'était pas question de le joindre. Au moindre petit bonjour sur le trottoir, il dégainait son iPhone dernier cri. Des capteurs, des caméras et sa berline Tesla se laissaient aspirer derrière un portail automatisé. Mais que fait ce drone dans les airs dont on dit qu'il peut tout observer, ici, là-bas, et enregistrer le moindre de mes gestes? Il me faut avouer que j'ai pour toutes ces inventions une méfiance profonde, et cela ne date pas d'hier. J'ai toujours eu énormément de difficultés pour apprivoiser la technologie contemporaine. Les invasions de la télévision, du téléphone, de l'ordinateur et de l'électronique dans la cuisine ne se sont jamais imposées avec une grande sérénité. Le drone stagne quelques minutes près de la cheminée d'à côté, derrière l'antenne télé. La télévision, mon tout premier contact avec elle, tout petit, dans la rue qui menait à la grande maison de mes grands-parents, mon père me montrait les premières antennes sur les toits. « Tu vois là, il y a la télévision », me disait-il. Moi, assis sur le seuil de la porte, j'avais longtemps, très longtemps observé l'antenne d'en face. Et jamais je ne voyais d'image. Pour ce que j'en savais, la télévision permettait de voir des gens te raconter des histoires. Inutile de dire le gros bêta dont on m'avait affublé lorsque j'avais osé révéler ma déception de ne jamais voir d'image là-haut sur les toits. Il m'avait fallu du temps pour comprendre le chemin parcouru du toit à l'écran du gros meuble qui emplissait la moitié d'une cuisine dans la maison de tante Lucie. Mais où est passé le scarabée des airs, le drone impertinent? Après avoir déchiré le silence ambiant, après avoir tournoyé méthodiquement au-dessus de ma tête, il a disparu. Je suis certain que mon père aurait adoré l'engin volant. Lui était très friand des objets innovants. Vous devez bien vous douter que la fête des mères était une date privilégiée pour tout enrichissement de la batterie de cuisine. C'est ainsi que ma mère s'était vue offrir le mixeur, le couteau à découper, le presse-purée, la friteuse, la mijoteuse, la yaourtière, le gaufrier, le blender, la balance, le thermomètre pour la cuisson du gigot, les services à fondu et certainement bien d'autres ustensiles qui avaient longtemps traîné au fond du placard. Tout un matériel électrique, puis électronique et enfin connecté. Il était dit que cela devait libérer les dames des contraintes domestiques. Un détail, ma mère n'aimait pas faire dans sa cuisine. Les échos du dernier robot Magimix trottent encore dans ma mémoire quand le froufrou grinçant des palmes s'impose une fois encore. Le drone stagne maintenant au-dessus des... Mais que fait-il là encore? La tentation de fronde, de boomerang, de fusil à plomb, voire de rayon laser me démange. Et puis, comme aspiré par un trou noir, il disparaît. Les questions sans réponse, d'où? Pourquoi? Comment? Les frayeurs vécues à leur apparition dans le Donbass. Il m'est difficile de retrouver un temps pleinement serein. Une sonnerie d'un thé portable dans la cuisine. Je n'ose rien, je ne décide rien, surtout je ne me précipite pas. Un sourire ironique face au temps où le téléphone envahissait les demeures. Toute la famille était concernée avec les conflits que son usage supposait. Lui attendait fébrilement un appel urgent. Elle appelait sa copine pour la cinquième fois. C'était un faux numéro. Fallait fermer toutes les portes. C'était ultra confidentiel. Moi, je restais serein. C'était rarement pour moi. Plus un bruit parasite dans le jardin. J'imagine le prochain chantier sans craindre l'intrusion du drone. La mésange profite du silence revenu. Quelques groseilles profitent des caresses du soleil. On m'appelle de la maison, Monsieur Alexis m'attend devant le portail. Après les amabilités d'usage, il m'explique la présence du drone. Le paysagiste contacté vient de repérer la présence de Paysandisia archon, les papillons palmivores. Leurs larves sont néfastes pour les arbres. Sur son portable, il me montre une image révélatrice. Il serait bon que je fasse attention à mon palmier, conclut-il en me saluant. Thank you.
بدك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك.
Un extrait du livre de François Cheng, Une nuit au cap de la chèvre. Je sais que je dois parler en toute humilité, avec autant de simplicité que j'en suis capable. Au lieu d'un langage savant, plein de termes trop conceptuels qui prêtent à d'inutiles controverses, je vais essayer d'avoir recours à des expressions concrètes, imaginées, immédiatement compréhensibles.
Colombe Alma, j'ai 25 ans, je me sens libre. Je suis née le 8 mars 2000, le jour de la femme, un signe. Je suis étudiante en cours d'art dramatique au cours de Dienne. Je viens de passer une première audition pour incarner Gisèle Halimi. Allô maman, formidable, j'ai été retenue pour passer la deuxième audition, cette fois en présence de Gilles André, tu te rends compte? Tu vas être fière de moi. J'ai joué en y mettant tout, fureur et ferveur, tu me connais. J'y crois tellement. Franco-tunisienne comme elle, forcément le rôle est pour moi. Je vais l'incarner totalement, entièrement, corps et âme. Tout doux, Colombe. N'oublie pas que Gisèle, si elle était engagée, était aussi une femme réfléchie. Alors, tu devras assurer d'oser ta fougue, ma fille. C'est toi qui as assuré, maman. Tombée amoureuse d'un arabe, il fallait oser. Tu avais rencontré papa dans la rue, le soir de l'élection de François Mitterrand. C'était propice aux amourettes. N'empêche que vous ne vous êtes plus quittés. Lui, le Tunisien, et toi, la Bretonne. Et des années après, me voilà. Tu m'appelais ta petite pétroleuse et papa Papicha. Je me rappelle de mamie Didine à qui on avait appris à se taire, à être réservée, à mettre ses remarques dans la poche de son tablier, derrière son mouchoir, qui abriterait ses colères et ses chagrins, derrière son torchon. Elle n'avait qu'à balayer ses révoltes en même temps que la poussière. Alors qu'il suffisait à son frère de passer la porte pour qu'on lui porte toutes les attentions. Mais toi, Mamoun, tu as décidé de ne jamais te taire. Tu ne t'es pas contenté de devenir dactylo, tu parles, c'était mal te connaître. Tu as obtenu une bourse et tu es devenu médecin. Je dois mon nom à ton premier fait d'armes au collège. Ulcéré par le rôle qu'on t'assignait. Pendant les travaux manuels, les gars se retrouvaient en atelier et les filles en couture, sous la houlette de Mademoiselle Dupuis, qui vous accueillait avec un coup de sifflet strident, puis vous disait d'une voix suraiguë: « Allons, mesdemoiselles, vos doigts sont des petites fées qui ne demandent qu'à travailler. » Un matin, en te rendant en vélo au collège, tu étais tombée sur une affiche, pas n'importe laquelle. Une affiche qui te fit te casser la margoulette tant tu te mis à rêver illico à des lendemains qui chantent. Cette affiche sur ton chemin était une promesse. L'égalité était à portée de deux coups de pédale. Tu arrachas l'affiche pour la placer sur le bureau de Mademoiselle Dupuis, qui faillit la vieille bique en avaler son sifflet. Cette affiche indiquait 1975, année des femmes. L'ONU, tu ne savais pas bien ce que c'était. Cette affiche, tu me l'as donnée. Elle est punaisée dans ma chambre. On y voit une colombe avec le signe égal dessiné sur son aile. Colombe, papa n'a pas voulu te contrarier et m'a donné comme deuxième prénom Alma. Comédienne, je n'ai pas besoin de pseudonyme. Colombe Alma, ça claque. Toute petite, quand je faisais mes devoirs sur mon ardoise, tu y dessinais souvent dans un coin cette fameuse colombe. Petite, j'étais plutôt intrépide, à jouer aux billes, à m'écorcher les genoux, à savater le ballon, à cueillir les murs sauvages avec les quenottes. Tu m'avais apprise à voler dans les plumes de ceux qui me traitaient de garçon manqué. Colombe, mais pas oie blanche, ça deviendrait ma devise. Tous les soirs, avant de m'endormir, tu me récitais le poème de Prévert. Il pleut, il fait beau, il fait soleil, il est tôt, il se fait tard. Il, toujours il qui pleut et qui neige, toujours il qui fait soleil, pourquoi pas elle? et toutes les deux, illuminées de risettes, on ajoutait « Elle pleut, elle fait beau, elle fait soleil, elle fait nuit ». En tous les cas, Mamoun, tous les trois avec papa, on faisait merveille. J'arrive au studio 7, même si je pense que ce rôle est fait pour moi. Je dois dire que passer devant Gilles André, ce monstre sacré du cinéma français, est impressionnant. Mais je reste confiante et pleine d'espoir. J'avance, tremblante mais déterminée. Je m'imprègne de la force d'Alimi. 5, 4, 3, 2, 1, moteur. Vibrante, je fixe la caméra et je commence ma plaidoirie. Peu à peu, ma voix blanche au début se pose et devient puissante. Le réalisateur me regarde fixement. Soudain, j'entends « Avance, bombe la poitrine, petite. Jolie cambrure. Voilà. Comme ça, c'est bien. Allez, ne fais pas ta farouche. » Sidérée, je ne bouge pas. J'ai du mal comprendre. Il avance et veut m'embrasser goulûment. Je sors en trombe. Moi qui me croyais forte, je ne peux tremblante retenir mes larmes, humiliée, vulnérable devant ce prédateur. Je me retrouve dans la rue, même pas eu le temps de prendre mon manteau. La pluie tambourine, la rage affleure en même temps que les larmes. Pas possible, en 2025, 50 ans après, on en est toujours là. Même après toutes ces décennies, à l'époque des réseaux, après MeToo, on en est toujours là. Bon sang, moi qui croyais que c'était gagné. Il y a sur mon corps cette douleur, cette honte crasse. L'année des femmes, les décennies des femmes, je t'en fiche. Quelle conne. Il me suffisait d'ouvrir les yeux. Alors, en rentrant chez moi sur l'affiche, je barbouille la colombe. De la colombe défigurée naît un triste volatile, un pigeon, ou plutôt une piètre pigeonne.
Fimbo, vimbom fan.
Winabamba,
vimbo,
la minzo,
vimbom fan.
Winabamba,
vimbo,
la minzo,
vimbom fan.
Winabamba, vimbo.
Vous avez entendu des nouvelles de Philippe Couate, Michel Frappard et Muriel Becquet, lues par leurs auteurs, ainsi qu'un texte de Françoise Cros, lu par Anaïk Frappard.
Cette émission, Le chemin des mots, a été réalisée par Philippe Couate, Michel Frappard, Yves Hamon, Bernard Zieler. Ils vous embrassent. Les textes rédigés ces derniers mois l'ont été dans les ateliers animés par Sylvie Boget. L'émission est diffusée le premier et le troisième mercredi de chaque mois à 17h30 sur Jet FM 91.2. Merci de votre écoute et bise à partager sur le chemin avec vous.